Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, Contre-histoire nous emmène cette fois-ci au théâtre. La scène se passe en 2015, après l'élection présidentielle. Nous sommes dans le château de Vincennes, près d'un temple grec, offert par la Corée du Nord à la République française. Le président vient régulièrement y consulter les oracles. Donnons la parole au président.
Elle se moque de moi. Elle est toujours en retard. J'ai besoin de savoir si je change encore de premier ministre. Et puis tous ces préfets incapables qui n'obéissent même plus. Ces journalistes qui se croient tout permis. J'en ai marre. Je vais partir à Las Vegas. Ça fera de belles images.
Arrive Cassandre, essoufflée. Elle a entendu le président.
« Moi aussi, j'en ai marre. Prédire toujours des choses qui vont arriver et qui ne sont que des catastrophes. C'est épuisant. »«
Je t'ai attendu. Mais n'en parlons plus. Je me souviens que jadis, c'est moi qui faisais attendre le pape.
Comme j'ai vieilli. Je vais te dire, ma petite Cass, l'essentiel du travail politique, c'est de présenter l'espérance comme justifiée et la réussite comme évidente. Tu te souviens? Ensemble, tout devient possible.
Cassandre, j'ai déjà prévu que cette histoire de cheval dans les murs de Troie, c'était dangereux pour nous.
C'est ce qui est arrivé pour toi, avec les ministres d'ouverture. Un par un, ils sont partis. Même Jean-Marie Bigard, qui est resté 3 mois au ministère du bouddhisme. Et puis les vieux de la vieille. Regarde. Kouchner fait de l'immobilier. Et Jacques Lang, que tu avais mis à la justice, a obtenu une chaire de sciences politiques au Québec, comme n'importe quel Juppé. Je crois que ça s'appelle « socialisme et consommation ».
Président.
Lorsque j'aurai épousé Madame Royale, tout rentrera dans l'ordre.
Cassandre.
C'est bizarre, depuis qu'il n'y a plus d'étrangers en France, les Français ne se sentent plus chez eux. Ils sont tous partis au Canada.
Je l'avais prévu.
Président. Tu sais, je n'aime pas tes prophéties. Je suis comme Apollon qui te crachait dans la bouche parce que tu avais refusé ses avances.
Cassandre.
Tu finiras mal, président. Les rois ne savent jamais limiter leur pouvoir. Je l'avais déjà dit à Agamemnon, et il n'avait pas voulu me croire. Il avait insulté le devin Calchas et avait fait preuve d'un tel orgueil envers Achille que ce dernier l'avait traité de roi dévoreur de son peuple.
Président, ça suffit. D'abord, il n'y a pas d'Achille à la cour. Il faut du courage pour être Achille.
Et puis, c'est mon peuple qui m'a dévoré.
Je suis fatiguée, Cassandre. Le peuple, il faut toujours lui trouver quelque chose de neuf, tous les jours.
J'ai tout essayé. Des mariages, des divorces, des escapades, des amours brillantes, des coups d'éclat, des feux d'artifice. Même le Super Day, chaque 28 janvier, ne marche plus. C'était pourtant une bonne idée. Un chocolat géant pour mon anniversaire sur le Champ de Mars. C'était pour les enfants.
Choose one. Choose one.
C'est parce que tu gouvernes à l'ancienne, comme un souverain du temps jadis. Contrairement à tout ce que le monde raconte, il n'y a rien de nouveau à la cour. Ce sont toujours les mêmes courtisans, la même servilité, les mêmes intrigues. Le peuple, lui, il voit ça de loin, mais il comprend tout. Deviens le président Coty, et ils t'aimeront. Tu es trop riche, président, trop puissant.
Président.
Explique-moi alors, chère Cassandre, comment j'ai pu être réélue en 2012.
Cassandre.
Parce que les autres étaient mauvais. Et tu avais dit de nouveau que tu avais changé. Que la modestie était chez toi une vertu cachée. Mais une vertu bien présente, comme une petite lumière qu'on aurait étouffée. Et puis, tu as eu 8 premiers ministres différents. Je ne me souviens plus exactement. Même Bouygues a été premier ministre, il me semble, et t'étais toujours là, en plein soleil, décidant de tout. Et souviens-toi, tu es passé de justesse. Les sondages s'étaient effondrés après ta visite au Mali. Tu faisais du hip-hop sur le Niger. Il a fallu te repêcher. Et puis, je te signale que Louis XIV a duré plus longtemps que toi.
Le président, c'était un imposteur, une fausse gloire. Si j'ai changé mes premiers ministres, c'est parce qu'ils étaient mauvais. Tous mauvais.
Ce n'est pas très facile, en France, de trouver du petit personnel. Et puis, peut-être, je n'ai pas expulsé assez d'étrangers.
T'as vu cette campagne extraordinaire en 2012, Poutine et Kadhafi, à la même tribune, m'apportant leur soutien.
C'est ça qui m'a fait gagner. Les Français, il faut toujours les étonner.
Cassandre.
Oui, mais ça fait déjà 3 ans, cette élection. C'est vieux. Si tu veux de nouveau avoir des vents favorables, il faut sacrifier ce que tu as de plus cher. Il n'y a pas qu'Iphigénie. Et il n'y a pas d'Iphigénie auprès de toi depuis le départ de Carla. Mais trop de voitures luxueuses, trop de yachts, et pour tout dire, trop d'argent. Sois discret, sois pauvre, président. Ce sera un événement. Parce que moi, qui lis l'avenir, je te prédis cette chose terrible. Le retour de la lutte des classes. Tu n'y crois pas. Tu n'y as jamais cru. Le monde people, qui te plaît tant, c'est destiné aux candidats à leur propre exploitation. C'est le contraire de la lutte des classes. Tu penses qu'être people, c'est comme la barbe à papa pour les enfants. Ça les empêche de pleurnicher. Tu rentreras dans l'histoire comme l'homme qui a réintroduit la lutte des classes en France.
Non, c'est parce qu'avec Ségolène, c'est du sérieux. Tu entends ça, ma petite Casse? Elle a lu Marx, c'est incroyable. Et puis le soir, on fait du jogging ensemble. Ça sera le couple le plus performant de la politique française.
J'ai fait reproduire pour Gala le diamant que je lui ai offert. Nous avons inscrit sur l'anneau « Union pour la France ».
Cassandre,
regarde Bayrou, il ne se marie pas tous les 15 jours. Il est passé devant le Parti socialiste aux dernières élections.
Président.
Ah, je t'en prie, cesse de me parler de ce type. Il est insupportable. D'abord, il n'aime pas les Béarnais. Est-ce que seulement ce sont de bons Français?
Cassandre. Le bon Français, comme tu dis, ça n'existe plus. Le bon Français, c'est celui qui fait le maximum à l'audimat. Et ça change tout le temps. Tu es resté dans ta tête sur l'idée que la France, c'était Neuilly en plus grand. Un grand tableau qui peu à peu prendrait Neuilly pour modèle. Et tu serais le peintre de ce grand tableau.
Président. Mais dis donc, tu te fous de moi? À Neuilly, les jeunes, ils ne brûlent pas les voitures. Regarde ce qui se passe tous les soirs en Seine-Saint-Denis.
Cassandre. C'est normal. Là-bas, ils n'en ont pas.
This is the time to begin. If you wanna stand strong, come with rhythm.
Wake up!
In this world full of sin, everybody sleep, don't care for a thing.
Why you?
Stand still, world spins. You got what it takes, will you pull that string?
Why you?
Sick of the mad right wing, fed up of being stuck in this endless ring.
Knowledge is all, education's the key. Your mind is a weapon. Light down this message without any fear. Teach generations. Join yourself, this fight is for real. Got to set an example. Snap out the bad dream, wake up and hear sound of rebellion.
Président. C'est pas une raison.
Cassandre.
À Neuilly, ils ont aussi des parents, des études, des logements.
Président. Écoute, Cass, ne viens pas me gonfler avec Neuilly. Et puis, tu peux t'en aller. Je me demande d'ailleurs pourquoi je t'ai fait venir.
Cassandre. Tu voulais faire un nouveau parti avec Ségolène.
Président. Ah, c'est vrai. Un parti avec des courants. La grande ouverture, la petite ouverture, la moyenne, la minuscule. On peut y mettre tout le monde, même les communistes, comme De Gaulle. D'ailleurs, quand j'entends Michel Alliot-Marie, j'ai envie de dissoudre le RPR.
Cassandre, mais tu l'as déjà fait.
Président, pas vraiment.
On a mis un autre nom, c'est tout. Et puis, je vais te confier une chose, je fais des rêves.
Cassandre, ah ça, ça m'intéresse.
C'est mon métier, les rêves. Les signes dans le ciel, le vol des oiseaux, la couleur des intestins chez un jeune bœuf. Et surtout, surtout, les cauchemars.
Président.
Oui, oui, je sais, mais c'est pas ça. Je rêve chaque nuit que je dissous l'Assemblée nationale.
Cassandre.
Tu as déjà dissous la Comédie française. Parce qu'il ne voulait pas de toi comme secrétaire perpétuel.
président, c'est vrai, ça me plaisait bien, le mot perpétuel.
Cassandre, continue comme ça et tu verras les sondages. Tu as vu ton score pour l'émission hebdomadaire de TF1, direct président. Il baisse régulièrement. La prochaine fois, tu passeras au-dessous de cette série américaine dont j'oublie toujours le nom. Ah oui, c'est ça. 3 flics et 2 danseuses. Comédie musicale de Broadway.
Président. Ah, mais moi j'aime bien les comédies musicales. Je crois que tu as tort, ma vieille. La vie est assez dure comme ça. Faut y mettre du rose, de la joie, des fêtes, des bonbons, du foie gras.
Mon objectif est simple, Cassandre. Si c'est nécessaire, je peux faire des claquettes.
Cassandre, j'étais à Munich.
Président, qu'est-ce que tu me parles de Munich?
Cassandre, oui, en 1938.
Président, mais moi je te parle de moi, des claquettes.
Cassandre, j'ai retrouvé le numéro de match qui a suivi la conférence de Munich. On voit des photos d'Hitler, de Daladier, de Chamberlain. C'était très courtois, une rencontre de gentlemen.
Président. Et alors, quel rapport?
Cassandre. Eh bien, le titre de ce magazine, c'est, en grosses lettres, La paix. Tu sais ce qui s'est passé un an plus tard?
Président. Tu m'assommes avec l'histoire. Je déteste l'histoire. Et d'abord, je sais bien que les Allemands ne m'aiment pas.
Cassandre. Les Allemands sont des gens sérieux. Ils considèrent la monnaie comme une grande maison. Ils veulent s'y sentir bien. Et les déficits leur semblent quelque chose d'obscène.
Arrive une secrétaire portant un nouveau sondage.
La secrétaire. Excusez-moi, monsieur le président, mais c'est important.
Président. Ma petite, rien n'est important quand on parle du futur. Montrez-moi ça quand même.
Ah, c'est embêtant. Je perds encore 3 points. Je crois que ce nouveau gouvernement ne vaut rien. C'est terrible, ça. Vous couvrez les gens d'honneur et ils vous claquent entre les doigts.
Cassandre, je crois que tout ça va mal se terminer, président. Président. Ah, ça suffit. Tu n'arrêtes pas de me dire ça, c'est pénible à la fin. D'abord, tu ne sais pas ce que je prépare.
Cassandre. Non, mais je crains le pire.
Wake up! Wake up! Wake up! Oh, you gonna swing like a puppet on a swing. Wake up! Wake up!
Président, je vais nommer un évêque au ministère de l'Intérieur.
Cassandre, c'est pas possible.
Président,
ça, tu l'avais pas prévu.
Cassandre, non, je ne prévois que les catastrophes.
Président, alors là, tu vas voir, ça va très bien se passer. Le Vatican me comprend. J'ai obtenu l'accord de mon copain Benoît. Tout est prêt. Je suis bien chanoine, non?
Cassandre. Mais comment il va faire ton évêque pour chasser les étrangers, démonter les tentes de SDF?
Président. T'en fais pas. Les étrangers, je m'en suis occupé. Il y en a plus beaucoup. Fais le compte. 25 000 de moins par an. On va bientôt arriver à 200 000. Mais je vais faire mieux. Je vais...
Cassandre.
Moi, j'étais une étrangère à Mycène. Je crois que le roi était un peu amoureux de moi. J'étais très belle. Et puis, une Troyenne, pour lui, c'était un peu exotique. Il a fait comme tout le monde, Agamemnon. Il a fait comme toi. Il n'a jamais voulu me croire. Personne ne me croit.
Président. Écoute, ma vieille, moi, j'ai besoin de bonnes nouvelles. On ne peut pas gouverner sans bonnes nouvelles. Ce sont mes instructions pour le porteur de parole. Et pour ma plume aussi. Tu connais Guénaud ? On l'appelle le Danube de la pensée, dès que j'ai le dos tourné.
Tu sais, c'est terrible, la jalousie des gens.
Et on annonce l'arrivée du ministre de la pyramide des âges. Président.
Entre, imbécile, et ne t'assieds pas.
Voici mes instructions. Je veux qu'on ferme davantage de maisons de retraite. Disons 1000 par an. Je t'avais dit 500, mais c'est pas assez. Je te le répète, il faut que les vieux meurent chez eux. J'en ai assez de voir des gens qui bavent dans leur yaourt à la télévision. Ça fait baisser le moral des Français.
Et le président prend l'un des 8 portables posés à côté de lui et appelle le ministre de la Culture du Résultat.
« Dis-moi, espèce de crétin, j'apprends qu'on a du mal à fermer les maisons de retraite. Si on n'arrive pas à 1000 par an, tu es viré !»
Il raccroche. Cassandre.
« Je vais m'en aller, président. Il faut que je passe par Bagdad. » Kaboul, Nairobi, Karachi et la bande de Gaza. Tu sais, je n'arrête pas. Les hommes ne changent pas. J'étais déjà avec vous, avec les Français, à Trafalgar, à Waterloo, pendant la Commune, à Sainte-Hélène, à Alésia, à Sedan, à Alger en 62, à Hanoï en 54. Et ce ne sont que les derniers épisodes. Je vous accompagne dans vos épreuves. J'aime bien la France. C'est un pays très pessimiste.
Allez, salut ma vieille, je vais voir Ségolène. Elle au moins, elle a un moral d'acier.
Et le président quitte le petit temple grec, met sur son visage un masque vénitien, branche les écouteurs de son iPod et se dirige à pas lents vers le pavillon de la reine. La nuit tombe et l'on entend monter à travers les arbres du bois tout proche la pièce de Berlioz, Les Troyens.
You are under the scope, divided, you stand, will there be any hope?
Balkan!
Evil's got to resign, show your real strength and shut them all down.
Oh,
don't forget what you heard, time to stand strong, let them hear your word.
Rise up!
The throne falls kings, you got what it takes, you will fool them.
Mind is controlled, you do what you're told. Future, freedom, honor, truth, peace, life, pride, behold, now everything's sold. Hunger, disease, virus, pollution, thirst, whether hot or cold, stories untold. Fear in the eyes, so many lies that you sold. We're not different, shaped in same mold.
Wake up! Wake up! Wake up!
Et comme vous avez reconnu le président en question, voici la lettre qui lui est adressée par un personnage assez énigmatique. Vous verrez que le texte de cette lettre, tout comme la petite pièce de théâtre que je viens de vous lire, et qui sont du même auteur, bien sûr, vous verrez que c'est l'œuvre d'une sacrée plume. C'est très brillant. C'est très lucide. Sauf que, question de lucidité, je ne comprends pas ce qu'un gars comme lui fait à droite. Eh bien oui, vous aurez tout entendu à contre-histoire, même les louanges d'un homme de droite. Je vous ai déjà fait les louanges de Simone Veil, de Germaine Tillon. Alors, faut pas vous étonner, hein. Mon cher Nicolas, oui, je le reconnais. Peut-être me suis-je laissé emporter. Peut-être
Ai-je sous-estimé ta bonté naturelle et la profondeur de tes sentiments? Tu le sais bien, je n'aime pas l'impartialité. C'est une fausse vertu. Souviens-toi, nous n'étions pas impartiaux. Vois-tu, je m'étais engagée dans un silence assez paisible et tu es venu le briser. Tout cela, c'est de ta faute. J'écrivais des livres, j'avais créé mon entreprise et me voilà t'interpellant comme si j'avais oublié l'éminente dignité de ta fonction, la gloire et le respect qui doivent naturellement l'entourer. C'est pas de ma faute, t'as tout fait pour ça. Alors, pour clore ce petit exercice d'insubordination, je fais le vieil écolier qui écrit à son surveillant général. Il se souvient des farces, des bonnes et des mauvaises notes, des rigolades dans les escaliers et surtout, surtout, des cours de récréation entre les heures de classe et les heures de colle. C'était l'Assemblée ou Matignon ou l'Élysée déjà. On s'y donnait des bourrades, on philosophait, on marchait simplement côte à côte, comme si le monde, au bout de la rue, nous attendait pour le reconstruire. C'était peu connu, cette détente, juste à côté du pouvoir et du savoir. Mais ça existait. Je t'écris donc parce qu'au fond, tu n'es pas si méchant que tes adversaires le disent. Et c'est peut-être moi qui le suis. D'habitude, je ne suis pas comme ça. Chez les humains, la méchanceté, c'est un travers de droit commun, et je ne voulais pas être comme tout le monde. Mais depuis que tu es à l'Élysée, je suis inquiet. Qu'est-ce qui t'a pris exactement? Quand je lis dans un journal que désormais la police française arrête des enfants, j'ai suivi avec consternation le morceau de Grand Guignol qui t'a mis dans les bras de Kadhafi. J'apprends que tu as une plume qui te fait dire des bêtises. Il paraît que tu n'écoutes plus ce qui t'entoure. Tu aurais même traité mon ami Martinan d'imbécile. C'est pas bien tout ça, président. Je te le dis parce que nous avons grandi ensemble. C'est vrai, il y a parfois de la mesquinerie chez les rois. Toute notre histoire le montre. Et Versailles et le Louvre et le Palais Royal, l'Élysée, ce sont des bâtiments où la mesquinerie s'est largement déployée. J'ai bien connu Giscard et Mitterrand. C'est tout dire. Mais toi, toi qui m'as battu au tennis avec une élégance, une discrétion que je n'ai pas oubliée, c'était à Biarritz. T'en souviens-tu? Il y avait Cécilia, Isabelle, la beauté de la mère, notre fraternité dans la défaite. On savait bien que Chirac allait nous rayer de la carte, nous exiler. Et Guernesey, c'était tellement loin de Brégançon. Mais il y a des exils intérieurs qui sont bien plus durs, très chargés d'amertume. Les hommes politiques qui se veulent un peu aventuriers appellent cela une traversée du désert. Ils pensent à De Gaulle, à Poincaré, à Necker, à tant d'autres qui sont plus grands qu'eux. Ils apaisent ainsi leurs souffrances. Peut-être va-t-on les rappeler. Ils sont certains d'avoir bien agi. Mais la politique n'est pas une science exacte. Tu en sais quelque chose. Et puis ces histoires d'ADN pour le regroupement familial, ce n'est pas toi. Tu t'es fait déborder par quelques malades de l'UMP, des frénétiques. L'arche de Zoé, ce n'est pas toi. Ces pieds nickelés qui ont eu le culot de même pas prévenir Guéant quand ils sont partis pour le Tchad, tu te rends compte? Et toi, toujours la main sur le cœur, j'irai les chercher un par un. Tu imagines Bush nous prévenant qu'il va venir chercher les touristes américains qui ont fait des conneries en France? Tu lui mettrais au bas de l'avion le raid cagoulé, le GIGN cagoulé, que dis-je, la Légion, les forces spéciales. Moi, j'ai suivi ta campagne. Je te le dis maintenant,
Malgré tes promesses un peu fanfaronnes, j'ai voté pour toi. Ce n'est pas si mal. J'aurais pu voter pour Bayrou, plus sérieux au fond. Mais il n'était pas au deuxième tour. Comme tout le monde, dans la vivacité de ton caractère, tu as pu te tromper. Jadis et aujourd'hui encore. C'est normal, tu n'aimes pas qu'on te contredise. Et ce dernier débat, avant ton élection, tu regardais tout le temps les journalistes. Tu avais peur du beau visage de dame royale. Je crois que tu as toujours eu peur des femmes. Tu veux les séduire, mais tu ne sais pas les commander. Juste un conseil, il ne faut jamais essayer. Tu as dans ton gouvernement cette madame Boutin. Regarde comme elle fait. Elle a le comportement d'une armoire suisse. Placide et tout, gentille. Mais tu ne la commanderas jamais. Elle n'a peur de rien.
You are under the scope, divided, your stem will be anyhow.
Balkan!
Evil's got to resign, show your real strength and shut them all down.
Balkan!
Don't forget what you heard, time to stand strong, let them hear your words.
Rise up!
The drone falls kings, you got what it takes, you will fool their strength.
Power, money, crime, hype, news, war, mind is controlled, you do what you're told. Future, freedom, honor, truth, peace, life, pride, behold, now everything's sold. Hunger, disease, virus, pollution, thirst, weather, hot or cold, stories untold. Fear in the eyes, so many lies that you sold. We're not different, shaped in same mold.
Wake up! Wake up! Wake up!
Fadela Amara, c'est très bien. Elle ne connaît pas Neuilly, les dîners en ville, la maîtresse de maison, qui n'aime ni les Arabes ni les Juifs, et peut-être même pas les francs-maçons, l'industriel qui calcule ses stock options entre la poire et le fromage, et puis ces ascenseurs où tes gardes du corps attendent les invités avec un regard incrédule, parce qu'à Neuilly, les ascenseurs fonctionnent. Elle est bien, Fadela Amara. Elle dit des gros mots. Quand on était petit, on faisait ça aussi. Si jamais, ainsi que je l'ai entendu, tu veux la faire noter comme une écolière, ne sois pas rancunier. Elle a dit qu'elle ne voterait pas pour toi la prochaine fois. Nous sommes quelques-uns dans ce cas-là. Ne nous en veux pas. Je sais, il y a des ministres qui se sont fait virer pour moins que ça. Mais garde-la, sois magnanime. Je suis sûre qu'elle a voulu s'aligner sur Cécilia, qui, tu t'en souviens, ne s'est pas déplacé pour l'élection présidentielle. Tu en as d'autres auprès de toi, des hommes dont j'ai oublié les noms. Je les ai connus, s'agrippant aux cordes qui mènent aux différents étages du pouvoir. Cabinet ministériel, secrétariat d'État, à la diététique, à la dureté de la vie, aux rues piétonnes. Et puis ministre, enfin, hanté par le licenciement. J'ai suivi ces étapes. Moi, le garçon appliqué, gentil et courtois, le gendre idéal, parfois désagréable, empoté ou inutile. Je les imagine autour de toi, guettant le moindre geste d'impatience, ce tapotement des doigts sur la table, cette exaspération qui te fait lever les yeux au ciel lorsque tu entends la voix acide de Madame Alliot-Marie. Aujourd'hui, j'ai envie de te chanter la chanson de Barbara. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins, le sais-tu? Je parle à ce petit garçon que je n'ai pas connu, ressurgi dans les pages des magazines, issu d'un temps très ancien, avant que le pouvoir ne brûle son visage, comme on le fait, de photos jetées dans les cheminées. Tu as eu raison de citer Guy Môquet. Cette jeunesse-là, intacte et fervente, qui s'abat d'un seul coup, laissant derrière elle le grand silence du courage. Cette jeunesse-là, elle est belle, et sans doute plus belle que la nôtre. J'aurais aimé qu'à côté de Guy Môquet, tu cites Aragon, celui de l'affiche rouge, parce qu'il parle de Manoukian et que le poème d'Aragon était lové dans l'écriture de la dernière lettre du futur fusillé.
Pourquoi dis-je cela? Parce que les étrangers, mais nos frères pourtant, ont davantage honoré la France que ces bons Français qui tranquillement la salissaient à Vichy. Parce que ce sont souvent des étrangers qui ont aimé plus notre pays que nous ne l'avons fait. Parce que leur nom à prononcer sont difficiles. Parce qu'ils considéraient que peut-être, dans le mot France, il y avait un désir de droit et, qui sait, une résistance cachée. À propos, tu fais bien de ne plus parler de la France, patrie des droits de l'homme. D'abord parce que l'homme avec un grand H, ça n'existe pas. C'est trop abstrait. Il y a la maman qui, de crèche en crèche, de secrétariat bidon en CDD éphémère, n'arrive pas à s'en sortir et qui pleure le soir lorsque les enfants sont couchés. Il y a le type qui gère son entreprise comme une brute et qui prépare en douce les millions d'euros mérités à ses yeux pour son dévouement à l'économie française. Il y a l'enseignant qui renonce parce que c'est trop dur et que, un par un, comme des naufragés, ses élèves décrochent. Il y a le jeune beurre qui vient avec sa copine à la porte d'une boîte de nuit et qui s'entend dire, dans le brouhaha de la musique et des rires, que « non, elle est fermée, la boîte ». Et le petit vieux qui se laisse mourir et le chômeur que sa famille méprise. Et puis, tu le sais bien, ce n'est pas un homme abstrait, cette collection de malheurs, qu'il te faut diriger, gouverner, conduire. Finalement, je ne sais plus quel est le bon terme. Et je me demande ce qui pousse les gens à chercher un chef, ce qu'ils attendent de ce chemin, toujours un peu dangereux, qui débouche un jour ou l'autre sur la servitude. Nous ne sommes plus la patrie de ces droits-là. Il suffit de voir l'état de nos prisons. Il suffit de savoir qu'elles sont largement peuplées de gens qui n'ont pas été condamnés. Il suffit de voir la manière dont on achète des groupes de presse comme on le ferait de boîtes de sardines, où les SDF et les petits vieux et ces expulsés qui payaient leurs impôts depuis des années, etc. Je ne vais pas te faire la démonstration de ta nonchalance sur ces sujets. Bon, tu ne parles plus des droits de l'homme. Et au fond, tu as compris qu'il faudrait trouver d'autres mots. Le général de Gaulle, auquel tu ne fais pas assez référence, aimait l'Afrique. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas suivi certaines des vieilles et sages coutumes africaines. Faire choisir, par exemple, notre président sous un baobab par une assemblée de vieux sages réunis par leur âge, leur expérience, le respect dont ils sont entourés. Tiens, le Sénat, par exemple. Jamais un dictateur ne sera issu du Sénat. La plupart de ceux que nous avons connus venaient du suffrage universel. Tu devrais méditer cette réalité. D'ailleurs, s'il fallait trouver une preuve du caractère généralement inoffensif d'un collège de vieux messieurs, ce serait la description que fait Chateaubriand des séances des 2 et 3 avril 1814, au cours desquelles fut décrétée la déchéance de Napoléon. Certes, ce ne fut pas très élégant de la part des sénateurs. Mais enfin, Napoléon, qui les avait comblés d'honneur et d'argent, apprit ce jour-là, mais il le savait déjà, ce qu'était la nature humaine. Puisses-tu, cher Nicolas, dans l'exercice de ton pouvoir, te souvenir sans fin de cette belle réflexion des mémoires d'outre-tombe. Il y a des temps où l'on ne doit pas dépenser le mépris qu'avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux.
Oh, you gonna swing like a puppet on a string!
Wake up! Wake up! Wake up!
Oh, you gonna swing like a puppet on a string!
Wake up! Wake up!
Mais surtout, mon vieux Nicolas, laisse-moi te dire une chose. Si je suis inquiet de ta quasi-certitude d'avoir toujours raison, je suis plus inquiet encore de l'extraordinaire rapidité de nos emportements nationaux comme de nos déceptions. Tu t'efforces de nous tenir en haleine à la manière de ces jongleurs dans les cirques qui font tourner les assiettes au bout de plusieurs bâtons. Ils vont d'une assiette à l'autre, d'un bâton à l'autre, et nous sommes naturellement captivés par leur célérité. C'est ce qui se passe avec toi. Mais combien sont-ils dans les réunions de famille à dire « Ah, quel artiste !» Mais nous sommes un peuple dont les admirations sont fugitives. Souviens-toi simplement que Churchill et De Gaulle, qui, l'un et l'autre, avaient sauvé l'Europe du désastre, furent, l'un et l'autre, battus par des élections. Ils ne le furent nullement par la bête immonde contre laquelle, avec panache, ils se battirent. Gagner la guerre et perdre les élections, c'est quelque chose qui choque la raison. Mais y a-t-il de par le monde une discipline plus injuste et moins rationnelle que la politique? Tu en fais toi-même la douloureuse expérience. Avec cette histoire de plume, jadis on disait un nègre, cette histoire de plume qui pense et écrit à ta place. Quelle drôle d'idée tu as eue de laisser dire que tu étais incapable d'écrire toi-même tes discours. Surtout quand le type est, me dit-on, sensible à sa propre gloire. Voilà qu'il te fait un discours aux petits oignons, tout fignolé de délicatesse, où il te fait dire que personne n'est plus africain que toi, où il décrit avec les couleurs d'un explorateur colonial ta passion pour ce continent de mystère et de lumière. Et patatras! Les étudiants de Dakar, qui sont souvent moins ignorants que les nôtres, entendent ce qu'ils ne voulaient plus entendre. Te souviens-tu d'avoir dit ceci? Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais de quel droit? De quelle altitude peux-tu dire cela? De quelle chair? De quel mandat? Et puis... jamais l'homme africain ne s'élance vers l'avenir, jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire une sottise pareille? Et puis encore, le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. On dirait la vieille pub, Yabon Banania. J'étais voici quelques jours à Dakar et je discutais avec de jeunes chefs d'entreprise sénégalais. Ils étaient immergés dans Internet, faisaient des affaires, prenaient des marchés et se moquaient bien de ce que tu avais pu leur dire. En revenant vers Paris, j'en retrouve quelques-uns dans l'avion. Je leur pose cette question. « Vous allez à Paris ?» Tu sais ce qu'ils me répondent ? « Non, monsieur. » On passe par Paris, mais on va à Pékin. Mais foin de tout cela, je vais te donner de mes nouvelles, puisque tu ne m'en demandes pas. Avec ma famille, les oliviers, les chiens, ma petite entreprise, je vais très bien. Comme écrivait Chateaubriand à Madame Récamier, inutilement, je vieillis. J'adore cet inutilement. Donc j'écris, je lis, je travaille, et je trouve dans cette paix de l'esprit beaucoup de contentement. C'est d'ailleurs en lisant Montaigne que j'ai eu envie de me tourner vers toi. Montaigne est, pour qui le souhaite, un compagnon de tous les jours. Est-ce que c'est méchant de dire qu'il est le contraire de ce que tu es? Il est paisible, modéré, enrichi au doute. Vagabond dans le plaisir de vivre, à l'abri des regards et des honneurs, attaché à quelque amitié discrète fondée sur la conversation. La plupart de nos vacations sont farcesques, écrit-il. J'ai trouvé cette phrase admirable. et c'est elle qui m'amène à te parler avec impertinence. Mais rassure-toi, je lis aussi Black et Mortimer. Bien sûr, pour Montaigne, la farce judiciaire l'emportait sur toutes les autres. Mais c'était celle du Parlement où il siégeait, celle de la mairie de Bordeaux également, toutes celles qu'il avait examinées avec ironie, avec un sens aigu du grotesque humain. C'est donc lui, après mon insolent de frère, qui m'a poussé à ne plus jamais être sérieux avec le pouvoir. Le frère, lui, chantait. J'étais grand, j'étais beau, j'ôtais pas mon chapeau. Ah, quel est ce bonheur délicieux de ne pas s'incliner. Mais il se trouve que tu as choisi une voie que j'ai moi-même un temps épousée, dans laquelle, si on ne s'incline pas toujours, sauf devant le peuple, du moins faut-il en permanence composer avec tout ce que l'esprit considère comme désagréable. Quand je pense que tu as pu trouver du plaisir à discuter avec Bush.
Oh, you gonna swing like a puppet on a string.
Je reviens donc à Montaigne. Je ne me prends pas pour lui, mais je mesure à son juste prix l'honneur de le fréquenter. Il justifie, avec quelques siècles d'avance, ma téméraire espérance de mourir convenablement. Par ailleurs, il t'adresse un message malicieux que je traduis en français d'aujourd'hui. Sur le plus haut trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. Et puis déjà, il parle de ta hastiveté, qu'il n'aime pas. Tu remarqueras que c'est un beau et ancien langage français. En employant le mot de « bravitude », Ségolène avait inventé quelque chose d'étrange qui remplaçait inutilement le mot de bravoure. Je crois qu'il ne faut jamais substituer un mot à un autre. Il suffit de les laisser grandir dans leur vie. Et puis, comme tout le monde, ils vieillissent et disparaissent. C'est pourquoi je te le dis, je n'ai pas abandonné la politique, ce qui, au demeurant, n'aurait rien d'héroïque. C'est le temps qui s'est rappelé à moi, avec son inconvenance, son insistance, murmurant à chaque instant que la vie est toujours à venir. Donc, je fuis, je la cherche, c'est un exercice relativement honorable. Je te quitte, mon cher Nicolas. Que la vie soit douce pour toi, qu'elle te permette de ne pas perdre la raison devant l'étendue des pouvoirs qui t'ont été confiés. Bonne chance. Nota bene, s'il te plaît, n'embrasse pas Madame Merkel de cette façon. Pour deux raisons. D'abord parce que ce n'est pas ta mère. Et deuxièmement parce que les Allemands, lorsqu'on les aime, il faut le leur dire, avec une certaine déférence. Souviens-toi de ce que faisait Chirac. Ah, le baise-main, comme politique de civilisation.
Voilà, j'espère que vous vous êtes un peu régalé avec cette évocation d'un président qui a si tristement marqué le pays. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt, j'espère.